sur 9, 12h37 et en direct et jusqu'à 13h, les rendez-vous de midi. Aujourd'hui, à vos côtés, Emmanuel, dans nos studios, la maire de Froidefond, Philippe Guérin.
Oui, il y a quelques jours, nous avons reçu une lettre dans la boîte aux lettres de 9. Ça date 1er juillet 2027. L'auteur, Philippe Guérin, maire de Froidefond, connaît bien. La lettre a été envoyée à la presse, mais surtout au président de la République, à la première ministre, à divers députés, sénateurs et des représentants de l'État. Bonjour Philippe Guérin.
Bonjour à tous.
Alors j'avoue, notre surprise, quand j'ai décacheté cette lettre, j'étais pas la première, je crois que c'est Arnaud Guitou qui l'a lu en premier. Donc 1er juillet 2027, et ses premières lignes, Madame Le Pen a déjà commencé ses 100 premiers jours à l'Élysée. Et voilà, c'est une lettre un peu politique fiction, on l'espère, que vous avez écrite. On va revenir sur les différents sujets d'inquiétude que vous évoquez, sécurité, enseignement, santé, le sort des petites gens que vous évoquez. Alors qu'est-ce qui vous a décidé à prendre la plume sous cette forme?
Eh bien, ça fait la troisième fois que j'écris à des présidents, à des députés, à des sénateurs, aux parlementaires. Et cette année, j'ai voulu marquer le coup un petit peu plus. Et j'ai pensé à ce titre, 1er juillet 2027. Et normalement, ça doit interpeller.
En tout cas, tout de suite, ça nous a interpellés. Alors, vous rappelez, en vous présentant, que vous êtes maire de Froidefond, vice-président de Chalancois Communauté. Donc là, on est en 2023, hein, en charge des sports et loisirs. Mais vous avez aussi été professeur toute une carrière, hein, professeur d'EPS, aujourd'hui à la retraite, fort de 25 ans de présidence d'un club d'athlétisme local. Vous avez fondé ensuite le triathlon Chalancois. Vous êtes le trésorier du club. Vous avez été le trésorier pendant 40 ans de l'asso sportive de votre collège. En gros, vous êtes fort de toutes ces expériences et c'est fort de toutes ces expériences que vous avez voulu un peu taper du poing sur la table.
Oui, et c'est aussi parce que je ne vois pas les choses avancer. Je ne vois pas les choses avancer pour les Français. Et ça me chagrine au plus haut point. On est en train de s'enfoncer dans une crise qui ne sera pas celle de l'Argentine, je l'espère. Mais en tout cas, on arrive vers le dénouement qui a eu lieu aux Pays-Bas il n'y a pas longtemps.
Et que vous citez, hein, ces deux pays, on en reparlera évidemment dans cette lettre. Alors, à qui l'avez-vous envoyé précisément?
Alors, je l'ai envoyé donc au président de la République, comme on l'a dit, à la première ministre, à M. Lisnard, le président des maires de France. Je l'ai envoyé à Édouard Philippe, je l'ai envoyé à tous nos sénateurs et puis à tous nos députés.
Et vous aviez effectivement déjà écrit, notamment il y a quelques années, à Nicolas Sarkozy,
oui,
le premier
exactement,
que vous aviez sollicité, qui vous avait répondu.
Il m'avait répondu, oui.
On attend la réponse d'Emmanuel Macron, là c'est un petit peu tôt peut-être,
hein. Oui, c'est un peu tôt, je pense qu'il faut un peu plus de temps.
Alors, je vous propose de revenir sur les grands points de votre lettre, qui commence donc en 2027, vous écrivez, je le rappelle, Marine Le Pen élue. On comprend très très vite que c'est pas du tout ce que vous souhaitez.
Non, pas du tout, parce que je pense que c'est pas. Il y a d'autres solutions en France qui peuvent exister, de mon point de vue en tous les cas. Mais également, je pense que beaucoup de Français attendent ce moment-là. Et c'est ça qui me fait un peu peur. Et c'est pour ça que je veux alerter à nouveau les pouvoirs publics pour essayer de faire évoluer le cours des choses. Je dirais pas changer, faire évoluer le cours des choses.
Vous écrivez effectivement que vous alertez les politiques de tous bords d'ailleurs, hein, depuis des décennies.
Oui.
Mais vous écrivez, je vous cite, hein, c'est trop tard. Les Français ont eu tellement marre de toutes ces politiques et le contexte n'est pourtant pas celui de l'Argentine, mais quand même, je vous cite.
Oui, absolument. Et forcément qu'il serait dommage d'en arriver là. Je ne pense pas en France qu'on puisse être à ce niveau, mais néanmoins, il faut y faire attention par rapport à ce qui s'est passé aux Pays-Bas, ce qui se passe en Turquie, ce qui se passe en Hongrie, et vraiment, il faut prendre les choses à cœur, et c'est pour ça que je veux vraiment alerter tous les politiques de tous bords.
Alors vous prenez des exemples concrets, on va rentrer effectivement dans ces thèmes, hein, que vous abordez. Le premier, c'est la sécurité, avec des moyens insuffisants que vous évoquez, hein, pour la garantir. Là, c'est aussi le maire qui parle, c'est du vécu?
Oui, alors c'est du vécu, non pas forcément à Froidefond, parce que effectivement à Froidefond, on se porte plutôt bien, et il n'y a pas vraiment de réel problème. J'étais ce week-end à Paris voir mon fils, lui, il a une toute autre opinion de la sécurité en France, hein. Et puis également, quand on voit tous les crimes impunis, les zones de non-droit, les ministres qui sont coupables mais non sanctionnables, tout ça, ça fait je pense qu'au niveau des Français, ça fait un peu rigoler, quoi. Et c'est pas comme ça qu'on va faire évoluer le cours des choses.
Votre fils, vous le précisez, qui est policier?
Oui, il est policier.
Et vous avez vu sa vie évoluer depuis 15 ans.
Oui, il m'en parle et vraiment, il vit des choses qui ne sont pas très drôles aujourd'hui.
Vous dites que les compétences ne sont pas les mêmes. Vous parlez des compétences des policiers municipaux qui ont une charge de plus en plus importante face aux policiers nationaux qui ont aussi beaucoup de charges mais qui n'ont pas cette présence en fait, sur des territoires comme le vôtre.
Oui, bah, ils ne peuvent pas être présents partout, hein, on les comprend. La population française a augmenté de 20 millions et entre-temps, la police nationale, les effectifs n'ont pas augmenté. Donc forcément, au bout d'un moment, il y a un problème.
Voilà, donc acte. Du vécu aussi, évidemment, sur le sujet de l'enseignement. Ça va être le deuxième thème que vous avez mis en avant dans votre lettre. Vous regrettez beaucoup de choses. Alors, on le rappelle, vous avez été professeur de PS, c'est votre carrière hein, principale, pendant 40 ans. Et justement, bah, vous précisez, ça, on enseigne selon vous, selon les mêmes principes que dans les années 80, et c'est un vrai regret. Alors, c'était quoi les principes des années 80 qui n'ont pas bougé ?
Les principes des années 80, c'était un maître devant sa classe, un maître... tout puissant, non pas tout puissant parce qu'il était tout puissant, mais parce qu'il était soutenu par tout le système des parents, le système de l'éducation, et le maître avait tout le savoir. Aujourd'hui, on voit bien que ça se passe plus comme ça. Lorsqu'il y a une sanction, ne serait-ce qu'une sanction, petite sanction, les parents sont derrière, appellent le directeur, et ça ne passe pas, ça. Aujourd'hui, on peut plus enseigner comme ça.
Et les moyens, et les moyens,
et les moyens, alors. Moi, je pense aujourd'hui que l'enseignement ne doit plus être comme ça. Les redoublements, on en parle. Ça fait 10 ans déjà que les redoublements sont interdits dans l'éducation. Donc, qu'on sache lire, compter ou pas, ça n'a aucune importance. On passe dans la classe supérieure. Un bon point pour le ministre de l'Éducation qui vient de supprimer ce tabou du redoublement. Et moi, je pense qu'une des solutions, ça passe par le CP. Lorsqu'en CP, on sort du CP, on sait lire, tout ira mieux. Je le disais à l'instant avec vous.
Oui. Si on met plus d'enseignants au CP...
On ne peut pas passer si on ne sait pas lire et écrire. On voit bien qu'un sixième qui ne sait pas lire, l'école, c'est la galère. C'est la galère. Il a de mauvaises notes, forcément, il a de mauvaises notes. Il ne sait pas lire. Il ne sait pas compter non plus. Donc, il faut en venir au CP. Un enseignant pour 4, pour 6, pour 8, suivant les milieux sociaux où on est. Et puis, je pense que on passe en CE1 que si on sait lire, écrire et compter.
Alors ça fait partie effectivement des idées que vous pouvez avoir. Vous ne l'évoquez pas forcément dans la lettre, mais on en a parlé un petit peu avec vous. Alors, en revanche, dans la lettre, ce que vous évoquez, ce sont les compétences enseignement qui ne sont même plus suffisantes hein, face à tout ce qu'on demande aux professeurs. Alors vous le dites, des compétences sociales, pédiatriques, psychologiques.
Bien sûr. Il y a 40 ans, je le dis toujours, on avait la compétence pour enseigner. Voilà. Mais aujourd'hui, cette compétence pour enseigner, elle n'est pas suffisante. Et elle est même secondaire par rapport à toutes les compétences éducatives, pédiatriques, psychologiques, etc. Qu'un enseignant doit avoir aujourd'hui s'il veut faire passer un message, du coup, de l'enseignement.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour revenir aux compétences enseignement en priorité ?
Je n'ai pas trop d'avis là-dessus. Moi, je pense que la clé... de voûte, c'est ce que je viens de dire à l'instant, c'est si en CP tout va bien, je pense qu'après ça ira beaucoup mieux et on verra ce qu'on peut en sortir. Bon point, oui. Une bonne idée depuis une dizaine d'années déjà, ce sont les AVS, les assistantes de vie scolaire qui assistent au quotidien les élèves les plus en difficulté, et ça c'est vraiment une bonne idée.
Et ça vous en parlez dans votre lettre, effectivement, des AVS, oui. Vous évoquez évidemment la question des salaires, des indices bloqués, effectivement ces AVS qui sont importantes pour les élèves en difficulté. Et puis d'autres thèmes arrivent, hein, notamment évidemment, on va parler de la santé avec un sujet très actuel pour Froidefond en prime. On va revenir un petit peu aussi en 2023 hein, dans votre lettre. On en parle dans 3 minutes.
Juste après Jack et Parapluie, si on a, va tout de suite.
Matin d'hiver sur le palier, tu rentres chez toi. Le regard froid, les cheveux mouillés, tu ne t'expliqueras pas. J'ai embrassé tous tes défauts, j'ai fini par les trouver beaux. Le cri de ton cœur lui sonnait faux, comme mes toutes premières compos. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps. Dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle peint tes heures. Job indifférent, la fleur est fanée. Je ne saurais pas comment te plaire ni comment t'aimer. Je ne te reconnais pas. Pourquoi tous ces mystères? Mais dis-moi à quoi tu joues. Je vis sous le même toit qu'une étrangère qui s'éloigne jour après jour. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps. Dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle peint tes heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Madame se fout de tout, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Madame se fout de tout, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle peint tes heures à se faire belle, mais blessée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Oh, oh, elle sort sans son parapluie. Elle sort sans son parapluie.
Il y a de la magie dans l'air dans votre Super U Saint-Jean-de-Mont. On dirait bien que le Père Noël et ses lutins ont une envie de nous donner quelques astuces pour trouver de belles idées cadeaux.
Oh, oh, oh.
Jusqu'au 24 décembre, venez découvrir le marché de Noël et ses exposants locaux dans la galerie Les Sentiers du Marais. Joyeux Noël dans votre Super U Saint-Jean-de-Mont.
Super U Saint-Jean-de-Mont, inspirez, respirez.
Télème Assurance, cabinet Pascal Girardin, 4 rue Bonnefontaine à Chaland, vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.
Vous rêvez d'un Noël gagnant? On a mieux! Préparez un Noël hyper gagnant dans votre Hyper U de Chaland. Jusqu'au samedi 16 décembre, tentez de gagner plus de 40 000 euros de cadeaux. À vous les centaines de bons d'achat, téléviseurs, enceintes JBL, trottinettes, Cookeo et tellement d'autres surprises. Pour jouer, rendez-vous vite sur la page Facebook d'Hyper U Chaland et aux bornes de jeux en magasin.
Commerçant autrement.
Voir conditions sur place.
Samedi 16 décembre à la Balise, laissez-vous envoûter par la voix unique d'Arthur H. Un concert jubilatoire en perspective, en jauge mixte, assis ou debout. En première partie, découvrez un artiste programmé en association avec Chantapart. Arthur H. en concert, samedi 16 décembre dès 20h30 à la Balise du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un événement à ne surtout pas manquer. Infos et réservations sur labalise.fr.
Leclerc.
J'hallucine. Des lutins de Noël au Leclerc Chaland.
Forcément. Chaque jour des cadeaux. Plus de 25 000 euros de cadeaux à gagner jusqu'au 24 décembre. Une PS5, une Switch. Trois jours insolites gourmands.
Sans compter les nombreuses offres en tickets Leclerc. Mercredi, 40% sur le maquillage. Vendredi, 34% sur le Ricard. Samedi, 34% sur le petit électroménager.
La magie des fêtes, c'est bien réel, madame.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc.
Voir conditions au Leclerc Chaland. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
12h52, vous écoutez 9 et jusqu'à 13h, les rendez-vous de midi en direct aujourd'hui. Emmanuel, dans nos studios, le maire de Froidefond, Philippe Guérin.
Eh oui, Philippe Guérin, maire de Froidefond, maire et citoyen remonté. Vous avez écrit une lettre, un peu coup de poing, en tout cas coup d'alerte, pour demander de vrais changements aux gouvernants, à l'État, aux députés, aux tous ceux qui peuvent faire bouger les choses. Pour vous, si on ne bouge pas, on va se réveiller, je vous cite, en 2027 avec la gueule de bois comme l'Argentine ou les Pays-Bas cette année. Un des thèmes les plus préoccupants pour vous, celui de la santé, avec cet exemple. Exemple concret, tout simplement, Froidefond. Ça fait des mois que Froidefond n'a plus de médecin et que vous luttez aujourd'hui encore et encore, et vous le dites dans ce courrier.
Oui, absolument, oui. Et d'ailleurs, l'article déclencheur de ce courrier, c'est un article lu dans Ouest France où une halte soins addiction était créée à Marseille avec 21 personnes soignantes, alors qu'à Froidefond, n'en a pas.
Ouais, zéro.
Et ça a été vraiment l'élément déclencheur de ce courrier.
Vous rappelez qu'aujourd'hui, donc, vous êtes obligé de rajouter, froid de fond, une prime d'installation de 30 000 euros, un loyer gratuit du cabinet médical, une aide au logement de 6 mois pour attirer un médecin qui, pour l'instant, n'arrive pas. Ce qui est évidemment un effort considérable pour une commune comme la vôtre.
Oui, parce que l'ARS, l'Agence Régionale de la Santé, donne des aides aux communes, mais nous ne sommes pas dans la bonne zone pour recevoir les 2 fois 50 000 euros ou les exonérations d'impôts, voilà, qui vont être attribuées aux médecins qui s'installent dans certaines zones. Voilà. Nous sommes simplement en ZAC, zone d'action complémentaire, avec une petite aide à l'installation aux médecins, mais finalement, on ne fait pas le poids par rapport à si on était classé en ZIP ou en ZRR. Ce sont des mots assez savants, mais ZIP, zone d'intervention prioritaire, et ZRR, zone de revitalisation rurale.
Et pourtant, voilà, pas de médecin aujourd'hui, depuis des mois maintenant. Vous avez lancé des appels, évidemment, vous faites entendre hein, sur les réseaux, etc. C'est vraiment compliqué. Vous avez des cas qui peuvent devenir graves hein, sans médecin. Vous en avez eu un récemment.
Bien sûr. Un ami à moi, donc, qui a fait un malaise il y a 4 semaines. Et quand il est arrivé à l'hôpital, on lui a dit « Mais monsieur, quelques heures plus tard, et vous seriez décédé. » Et le monsieur lui a répondu mais j'ai plus de médecin et je me sentais bien en état de fatigue mais pas au point de faire un malaise qui aurait pu me coûter la vie. C'est dramatique, je trouve, moi. Dramatique.
Et on sait effectivement cette problématique hein, de désertification médicale, hein, notamment en milieu rural, mais pas seulement. Ça reste effectivement un point qui, pour vous, est très inquiétant. Vous évoquez aussi, enfin, les petites gens, en précisant, et j'en croise tous les jours, même à froid de fond.
Oui, les petites gens de froid de fond et d'ailleurs hein, sont les oubliés de nos gouvernants. Je donne un exemple avec les 5 points d'augmentation de retraite complémentaire qui sont attribués à tous les Français, sauf que celui qui a 150 euros, ben 5%, c'est pas grand-chose, alors que celui qui a 1000 euros de retraite complémentaire, ben on a vite fait le calcul, quoi. Et au mois de janvier, on annonce les salaires de base et les retraites de base qui vont augmenter de 5 points. Ben, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'une baguette a un coût différent pour ces gens-là et pour les autres ? J'entends encore la promesse de M. Macron d'une retraite à 1100 euros. Ben écoutez, je l'attends encore. J'attends également, la promesse de M. Macron qui est plus de SDF à Paris. Ben, je suis désolé, on est allé l'autre jour dans un musée. Il y avait 25 SDF dans la rue et sous les porches, etc. C'est pas normal. C'est pas normal. On les oublie, tous ces gens-là.
Et vous dites que ce ne sont pas les primes de ceci ou cela qui changent les choses. Alors, message fort, pardon, cette semaine, ce qu'on annonce hein, pour la fin de semaine, la prime de Noël, pour les foyers les plus modestes, vous parlez de petits pansements.
Oui, parce que ce sont des primes de ci et de là, et moi je ne suis pas contre, hein, mais en fait, où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on ferait mieux de donner un salaire décent à toutes les personnes qui travaillent, à tous les retraités qui ont une vie entière de travail, et peut-être que ces pansements à la petite semaine ne seraient plus indispensables. Les primes chauffage, les primes carburant, etc., ça ce sont des pansements.
Ce ne sont que des rafistolages à éviter la grosse crise, je vous cite hein, Philippe Guérin, après la réforme de retraite et surtout avec les JO qui arrivent. Pourquoi vous nous parlez des JO là ?
Les JO, j'y pense parce que tout le monde le dit, je crois que Paris peut être une très grande fête, hein. Moi je suis un sportif, je vais d'ailleurs aller à Paris une soirée, une seule, parce que ça coûtait vraiment trop cher, mais tout est possible à Paris. On voit bien que des personnes, des groupes qui voudraient, entre guillemets, mettre le bazar, le pourront sans aucun problème pour gâcher cette fête. Et je crois aujourd'hui que, eh ben, on est en train de refaire le quoi qu'il en coûte pour dire, bah, calmez-vous un peu, voilà, on vous donne ci, on vous donne ça, donc pendant les JO, laissez-nous tranquilles. Mais ça peut déborder.
En tout cas, vous appelez à une grande réaction. Ça fait 40 ans, écrivez-vous, que nos gouvernants, aujourd'hui vous, avec tous les Français les plus modestes, nous nous enfonçons. Grande réaction donc collective, grande réaction de l'État et des élus actuels, évidemment. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette grande réaction ?
Écoutez, ça fait 40 ans qu'on a eu la droite, la gauche, le centre et tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, force est de constater que ça n'avance pas, voire, c'est mon sentiment, on régresse, en tout cas au niveau des Français en général. Et si on ne se réveille pas incessamment sous peu, eh ben, ça va être difficile, je pense.
Cette lettre, ça a été vraiment un cri du cœur, il fallait que vous l'écriviez.
Oui, oui, oui. Il fallait que je l'écrive. J'ai écrit à Sarkozy déjà en 2017. J'ai écrit à nos parlementaires en 2022. Mais là, je veux faire un peu plus large.
Vous écrivez donc jusqu'à Emmanuel Macron. On attend effectivement des réponses hein, politiques qui, pour l'instant, ne sont pas arrivées. Mais la lettre a été envoyée il y a quelques jours. Pour vous, la suite, ce sera quoi ? Ce ne sera pas d'ailleurs ce cinquième mandat que vous évoquez dans la lettre ? Vous dites, hein, je commence mon sixième mandat d'élu.
C'était la fiction. Tout le monde sait que je vais arrêter en 2026.
Mais tout
ça, c'est un petit peu, c'est un petit sujet. Hein. C'est un petit sujet. Non, bah, ça fait. J'ai été 31 ans élu en 2026, donc bon, voilà, je pense que je vais m'arrêter.
Bah, vous ne devriez pas vous arrêter, vous avez plein d'idées.
Merci.
Philippe Guérin, excusez-moi, je perds ma voix. En tout cas, j'espère qu'on pourra retrouver cette lettre. En tout cas, peut-être le grand public voudra la lire hein, dans les jours à venir. Et puis, évidemment, vous nous dites hein, les réponses que vous allez recevoir.
Je n'y manquerai pas.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci, monsieur Guérin.
Merci de m'avoir entendu.
Dans nos studios. Demain, je vais annoncer la suite parce que là, vous n'êtes pas du tout.
Oui, je veux bien, merci.
Allez-y, parlez pour voir.
Non, vous
n'êtes
pas.
Oh là 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 là. Allez, un petit sirop, ça va aller. Demain, on parle économie comme tous les jeudis dans le Nord-Ouest Vendée, le salon Erwan Création avec Marie Navarre. Demain, dans nos studios, dans les rendez-vous de midi à 12h35. Et pour celles et ceux qui ont pris l'émission en cours de route, tout sera évidemment disponible. Entièrement en podcast, ça arrive très vite, 9fm.fr et notre appli. Merci monsieur Guérin. À bientôt et joyeuses fêtes. Allez la musique.